Je vous présente Jean-Pierre Bacot, notre conférencier de ce soir, auteur donc d'une langue, deux cultures, le malentendu entre la France et le Canada français, 1760-1970, qui a paru en 2008, et que voilà. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'exemplaires, mais il y en a là, donc c'est très bien, on pourra les montrer. Alors, Jean-Pierre Bacot est sociologue, chercheur associé à l'Université de Bourgogne et auteur de plusieurs essais. Alors, j'en cite trois, « Les femmes, la franc-maçonnerie et l'Europe, histoire et géographie d'une inégalité ». Janvier 2009, il est paru ? Ah oui, il est là. Il est... Les sociétés fraternelles pour une histoire globale, paru en 2007. La presse illustrée au XIXe siècle, une histoire oubliée, paru en 2005. Il est aussi auteur de nombreux articles, contributions à des ouvrages collectifs, chapitres de livres. Et je n'en cite qu'un qui a un rapport avec notre sujet. Passé du présent et présent du passé, l'Académie française et le Canada français, le cas de l'Acadie, qu'on a hâte de lire. Alors, vu de l'histoire littéraire du Québec, de quelque façon qu'on l'approche, la question du malentendu avec la France nous est, croyons-nous, familière. On n'est pas à un malentendu près, d'ailleurs, parce qu'on a écrit sur l'affiche « les malentendus », c'est qu'on part avec l'idée qu'il y en aura plusieurs. Je crois que c'est important et c'est riche pour nous d'avoir, sur cette question-là qu'on pratique d'habitude par l'édition, par la réception critique, une vue, pour nous, oblique, venue d'un peu ailleurs, à partir notamment de la sociologie et d'une perspective historique. Alors, je propose qu'on vous laisse la parole et qu'ensuite je vous pose quelques questions, que je vous soumette peut-être quelques cas pour avoir votre opinion et qu'ensuite on discute dans un troisième temps tous ensemble.
D'accord. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais, vu qu'on n'est pas très nombreux, si des points vous paraissaient un peu trop rapides ou un peu trop obscurs. Je voudrais quand même vous commencer par vous remercier, c'est le moins que je puisse faire de m'avoir invité. Au-delà de la simple politesse, moi, ça m'intéresse beaucoup que vous acceptiez qu'un Français qui n'est pas forcément le maudit Français du stéréotype vienne vous parler d'un malentendu, alors que tout semble aller très bien. Et tout semble aller très bien, comme je suis à Montréal depuis quelques jours, je suis passé chez Renaud Bray en face tout à l'heure, j'ai vu un super bouquin illustré, France-Canada-Québec, 400 ans de relations d'exception. Je n'ai pas noté les auteurs, mais j'ai vu que c'était édité aux presses de cette honorable université. C'est un superbe exemple de malentendu. J'ai feuilleté, j'ai regardé en particulier le passage sur la conscription pendant la Première Guerre. Il suffit de lire, par exemple, les deux solitudes de MacLean pour savoir que ça n'est pas tout à fait aussi simple ce qui s'est passé au Canada français pendant la Première Guerre mondiale. Canada français, je dis Canada français à des Québécois, je sais, mais je dis Canada français et je persiste et je signe, et non seulement parce que je ne supporte pas qu'on fasse de la téléologie et qu'on parte rétrospectivement de quelque chose qui n'existait pas. D'abord, l'époque dont je parle, c'était bien le Canada français, et aussi parce que le Canada français, ça rentre directement dans une problématique et dans un point central du malentendu que je traiterai un peu plus avant, mais pour vous le dire très, très, très simplement, c'est un moment que j'expliciterai tout à l'heure, où s'est posée la question pour un groupe qui s'appelait La Patente et dont je reparlerai lors de Jacques Cartier, lors de son explosion, de savoir s'il fallait faire primer le territorial, à savoir le Québec, ou le culturel, à savoir le Canada français. C'est-à-dire que d'un côté, on oublie les Anglos qui sont à Montréal, et de l'autre côté, on laisse tomber les francophones qui sont ailleurs. Voilà, en gros, une problématique que vous connaissez bien, mais qui est structurante d'un malentendu, parce que ça, tout le monde le sait, sauf que personne, en général, n'en parle. Alors, le livre que j'ai commis, faute d'un travail existant d'ailleurs, parce que c'est un peu ma spécialité, j'en parlais à Michel tout à l'heure, je m'attaque à un sujet, je m'aperçois qu'il n'y a pas de synthèse, donc je la fais. C'est des années, c'est une quinzaine d'années de documentation, parce que pour des raisons personnelles, je viens au Canada une à deux fois par an. Je viens même le plus souvent au Québec. Et au-delà de mes 2,50 m, 3 m de Canadiana dans ma bibliothèque personnelle, j'ai travaillé pour un autre livre qui était d'ailleurs à l'issue, le gros morceau de ce qu'on appelle en France l'habilitation à diriger les recherches, ce qui vient après le doctorat, mais je vous passe les éléments de cuisine, et que c'était sur les sociétés fraternelles. Et j'ai tout un chapitre sur le Canada, sur l'ambiguïté du Canada, parce que je parle, et j'y viendrai tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant parce que c'est pour cela que j'en suis venu à faire ce petit livre. Je parle des Chevaliers de Colomb, je parle de l'ordre de Jacques Cartier, et dans les deux cas, il y a une telle problématique foisonnante et un tel nœud de contradiction que je me suis dit, mais bien ça, il faut que je le creuse au-delà, disons, du travail de mise à plat. J'ai fait ça sous une forme rhapsodique, pas tellement académique, que certains de mes amis universitaires m'ont dit « t'aurais peut-être dû mettre des chapitres ». Je n'en ai pas mis pour la première fois, parce que je ne voyais vraiment pas comment artificiellement créer une telle articulation. Cela dit, je suis conscient à me relire que ce livre mériterait, mais peut-être n'aurait-il pas été édité dans ces conditions-là, d'avoir le double de volume dans la mesure où... faisant succéder des points, j'aurais pu en mettre 150 au lieu d'en mettre 75, parler d'autres bateaux, parler d'autres personnes, parler d'autres organisations, et ça aurait sans doute été plus riche. Mais il faut bien, de toute façon, commencer. Ce que j'essayais de traiter, c'est de mettre chronologiquement un certain nombre de vecteurs communicationnels, comme on dit dans les sciences de la communication, de manière peut-être un peu pompeuse, mais quand je dis vecteur communicationnel, ça peut être aussi bien un livre, ça peut être une organisation, ça peut être un voyageur, ça peut être un bateau, ça peut être des tas de choses, et ça me permet donc de marier les carpes et les lapins. Tout ça a été travaillé dans un contexte intellectuel et médiatique français et même européen, où le Canada en général, disons, n'est pas sur la carte, comme on dit chez vous, et où les francophones qui sont situés en dehors du Québec, là, sont carrément oubliés. Personne ne sait qu'ils existaient. Là aussi, j'ai eu souvent l'impression d'un décalage entre la réalité et les discours qui étaient tenus. Et le seul sujet qui revient très régulièrement, c'est la Nouvelle-France. Là aussi... Non, je suis venu en avion parce qu'en bateau c'est un peu long. J'achète le point. De temps en temps, je varie les plaisirs. Et qu'est-ce que je vois à la fin? Encore. Voilà. Publié information. 1630, la vengeance de Richelieu. Le Québec au cœur du plus grand secret, plus grand secret d'État, pardon, de notre histoire, etc. Un roman avec des voyages de Jean-Michel Rioux, nouvelle variation sur la Nouvelle-France. J'ai rien contre la Nouvelle-France, j'ai rien contre les 17e-istes, c'est des gens tout à fait respectables, il y a peut-être encore des choses à trouver, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une focale, en France en tout cas, une focale sur la Nouvelle-France qui obscurcit le reste. C'est-à-dire qu'on ne parle, on parle de la Nouvelle-France, on parle en gros... de maintenant, disons, après la Révolution tranquille, et entre les deux, on ne parle de rien, sauf qu'on dit que tout s'est bien passé, alors que tout s'est mal passé. Alors, le malentendu. Le malentendu, c'est le contraire du bien entendu, on s'entend bien, parce que en réalité, effectivement, depuis ce mouvement qu'on a appelé chez vous la Révolution tranquille, qui a eu lieu d'ailleurs aussi dans le Nouveau-Brunswick, hein, il n'y a pas qu'au Québec que ça s'est passé, mais qui s'inscrit d'ailleurs, et je ne vous apprends rien, dans un mouvement général de révolte de la jeunesse, de sortie des religions, de décrispation des mœurs, etc., etc., qui a touché tout l'Occident. Les choses vont bien mieux. Les relations entre le Québec, cette fois-ci, et la France... se sont banalisés. Les avions se sont remplis, Céline Dion a rempli les salles, et donc, si vous voulez, tout se passe bien avec nos cousins québécois, comme on dit assez souvent bêtement. Les choses vont bien. Quand on regarde dans le détail, on est abasourdi par le silence des historiens sur la manière dont les relations se sont passées. Alors, le décalage direct, il est né, bien sûr, à la Révolution française. Il est né par l'écart qui s'est creusé entre une civilisation, la civilisation française, qui accédait par à-coup à la modernité, à coup de guerre, à coup de contre-révolution, de courant progressiste réactionnaire, enfin, qui a quand même coupé la tête à un roi, ce qui a peu été apprécié ici, bien que ce soit les Anglais, je vous le rappelle, qui aient commencé ce genre de pratique. Donc, le décalage entre cette société française qui vaille que vaille par un coup accédait à la modernité et une société qui demeurait né variétour, disons, dans un cléricalisme conservateur, pour faire court, ou pour ce, dans ce que certains ici même ont appelé la grande noirceur. Donc des différences politiques, des différences culturelles, des différences religieuses, deux mondes réels autant qu'imaginaires qui se sont éloignés. Et même à l'intérieur d'une domination catholique. Je relisais tout à l'heure un livre dont je fais une note de lecture pour une certaine revue littéraire. C'est un livre consacré à Marc Sangnier et à l'histoire du Sillon. C'est en gros, pour ceux qui n'en auraient pas la mémoire précise, au début du XXe siècle, un mouvement qui s'est développé en France et puis qui a touché toute l'Europe dans une, disons, une sorte de pacifisme internationaliste chrétien impliquant des Allemands avant la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup d'anciens combattants. C'est un mouvement qui, en gros, s'appuyant pour partie sur les thèses de Léon XIII, disons les aspects les plus positifs qui sortaient du Vatican à ce moment-là, a essayé de réconcilier le catholicisme avec la République. Ce qui a donné politiquement, entre autres choses, ce qu'on appelle la démocratie chrétienne en France, en Italie, etc., c'est-à-dire ou le centre ou Bayrou, pour ceux qui connaissent un peu la politique française, c'est-à-dire un courant qui s'inspire du personnalisme de Mounier, la revue Esprit, enfin vous voyez un peu tout ce monde-là, disons progressiste, mais républicain, laïque, au sens propre du terme, mais restant profondément chrétien, plus ou moins catholique, chrétien lorsque, je ne sais pas, un Ricoeur, par exemple, est engagé là-dedans, protestant qu'il est, ou d'autres, ou des juifs progressistes, mais globalement à grosse dominante catholique. Or, ce mouvement-là, qui s'est développé en France, disons, autour de 1910-1920, sauf erreur de ma part, il a fallu attendre la crise des Dominicains au Canada dans les années 60 pour qu'on en ait à peu près l'équivalent. C'est-à-dire que le christianisme, le catholicisme français, car la France était aussi un pays à dominante catholique, quelle qu'a été la Révolution, quelle qu'a été la laïcité, quelle qu'a été la séparation d'Église et de l'État en 1905, il restait une dominante cultuelle et culturelle dans les années 20, dans les années 30, où c'était même, il y avait même une grosse réactivité de l'Église et des archevêques. Bon, et bien ce courant-là, à l'intérieur de l'Église, il ne s'est pas fait au Canada français. Et les seuls qui parlaient, et j'ai fait un article là-dessus sur l'Académie française, finalement, les seuls qui parlaient au Canada français, c'est ce qu'il y avait chez nous de plus réactionnaire. C'est la vieille France qui parlait à l'ancienne France, qui parlait à la nouvelle France. La vieille France parlait à la nouvelle France. Hein, c'est-à-dire les maurassiens, les monarchistes, ce qu'il y avait de plus poussiéreux, et en même temps parfois de très cultivés, hein. Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, de les prendre pour des idiots, mais qui servaient, si vous voulez, d'intermédiaires. C'est-à-dire que le Canada français n'avait pas de relation avec l'intelligentsia, ni même avec les forces catholiques porteuses de modernité. Alors on a dit que qu'elles étaient des guerres civiles européennes, et rétrospectivement, c'est une hypothèse qui me paraît séduisante et qui, en tout cas, me fait dire que la lente construction européenne dont nous avons aujourd'hui les fruits a aussi creusé un écart entre une société où petit à petit la France, la notion même de nation commençait à dépérir, de façon là aussi dialectique, avec des allers-retours, etc. Mais si on prend une tendance longue, un dépérissement du national, le moins qu'on puisse dire chez vous que c'était le phénomène contraire qui se produisait. Et donc, nous avons eu, nous, bien sûr, je dis nous, enfin, la France a eu aussi des périodes de grande noirceur, mais elles ont été suivies ou précédées de moments de lumière. Et ce qui, à mon avis, a différencié les deux sociétés et ce qui a bien créé le déphasage, c'est que chez vous, il y avait des petites lumières, ça c'est clair, il y en a eu, elles sont documentées. Mais il n'y a jamais pas eu d'aller-retour, il n'y a jamais eu de gauche au pouvoir, il n'y a jamais eu de laïcisation. Il y a même eu d'ailleurs une laïcisation qui vous a concerné. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister. Un travail a été fait par un universitaire qui s'appelle Laperrière, aux presses universitaires de Laval, Il y a une dizaine d'années que ça a commencé. Le troisième et dernier tome est paru il y a 2 ans. C'est une analyse de l'immigration religieuse qui a eu lieu après la fermeture des congrégations en France. Je lisais, à propos du bouquin de Marc Sangnier, sur Marc Sangnier que je lisais et dont je parlais tout à l'heure, on parle dans ce livre de ceux qui sont partis en Belgique, de ceux qui sont partis en Suisse, on oublie le Canada. Or, l'essentiel est parti au Canada. 15 000 religieux français et religieuses français sont venus au Canada. C'est-à-dire qu'au Canada français essentiellement, aucun archevêque, donc aucune concurrence. Les archevêques ici les ont reçus comme du pain béni, leur ont donné des paroisses. Si vous interviewez des gens qui ont vécu dans les années 50, il y en a beaucoup au fin fond du lac Saint-Jean qui avaient des prêtres français. C'est-à-dire que de même qu'il y avait déjà eu 50 prêtres qui étaient venus après la Révolution française au Canada, et dont j'ai autant vous dire qu'ils n'étaient pas des porteurs de modernité fuyant. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est des gens, et on va y revenir, qui haïssaient le courant républicain, qui haïssaient la franc-maçonnerie, qui haïssaient le protestantisme, qui haïssaient la gauche, qui haïssaient tout ce que vous voulez, et qui sont arrivés par congrégation entière, qui ont doublé le clergé québécois. Avec, en plus, une qualité de formation qui n'existait pas encore à l'époque dans les séminaires ici, et qui ils ont contribué à apporter. C'est-à-dire que on vous a envoyé, si vous voulez, 15 000 réactionnaires formés, combattants, motivés, jeunes, dynamiques, qui n'ont pas été pour rien, dans, d'une part dans le fait que les sociétés se soient creusées, mais dans la néocléricalisation qu'a connu le Québec, et ça c'est très peu documenté, c'est les Français qui ont néocléricalisé le Québec, et pour partie un peu les franco-ontariens, et ça c'est un point typique de recherche qui est faite, qui n'est pas clandestine, qui à mon avis touche un phénomène massif, et qui n'est pas documenté, qui n'est pas critiqué, qui n'est pas sur la carte. C'est un donc des points que j'essaye de mettre en valeur. Donc ça, c'est, si vous voulez, les cas de décalage direct qui ont créé le malentendu. Je voudrais vous en donner 2 autres de décalage que je qualifierais d'indirect, dont je vous ai un petit peu parlé au tout début de mon intervention. Il y a 2 points forts, à mon avis. Il y a ce que j'appelle l'irlandisation du Québec. Dans la mesure où un jour, il faudrait peut-être que j'écrive quelque chose, alors là, pour me faire peut-être définitivement détester, en disant que les principaux ennemis des Canadiens français, ça n'a peut-être pas été les Anglais, mais les Irlandais. Et puis peut-être aussi les Français. Qu'est-ce que j'entends par l'irlandisation du Québec? Eh bien, je voudrais parler des chevaliers de Colomb, qui mériteraient d'être connus pour autre chose que pour leur folklore. La contradiction d'une véritable contre-maçonnerie anti-maçonnique et la défaite face à eux des Français dont je vous parlais tout à l'heure, des Gaulois exportés en race campagne au Vatican. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglo-Irlandais, dont l'immigration était massive aux États-Unis, dans le Maine, etc., donc assez près du Canada, avec un prêtre, McKibben, ont créé une fraternité dont les rituels sont calqués sur le rituel de la franc-maçonnerie, avec des grades, des symboles, des signes, des décors, des loges, etc. Enfin, ils ne s'appellent pas des loges, mais qui sont exactement de la même façon, des initiations, tout ce que vous voulez, tout le tintouin. Sauf que c'est catholique, un prêtre par organisation, que c'est anti-maçonnique, anti-orangiste, qui est la maçonnerie de combat des Irlandais protestants, et que ça s'est répandu sur le Canada français et sur le clergé de manière phénoménale. Or, ça, c'est un type de sociabilité britannique. La loge anglaise, le club anglais, cette façon d'agréger les hommes ou les femmes avec les filles d'Isabelle, la petite formation féminine qui était agrégée et qui est toujours d'ailleurs agrégée à ça. Isabelle la catholique, la Reconquista, encore une figure éminemment progressiste. Eh bien, si vous voulez, ces chevaliers de Colomb, lorsqu'ils se sont donc créés dans tous les villages du Canada français, ont hérissé les francophones, en particulier les Français, qui étaient remontés contre ce type de modèle d'agrégation, contre l'idée même d'initiation, etc., etc. Il y a eu un débat entre évêques, puis entre archevêques, qui a été gagné à deux voix. La question est allée jusqu'au Vatican. Elle a été arbitrée au Vatican en faveur d'une réelle politique, c'est-à-dire du fait d'accepter le loup dans la bergerie, c'est-à-dire d'accepter de socialiser les Canadiens français à l'irlandaise, de manière à combattre les orangistes, de manière à avoir un outil capable de résister. Donc c'est ce que j'appelle une anglo-saxonisation par l'Irlande. Jusqu'à Jean-Paul II, je ne sais pas si le nouveau pape Benoît XV l'a fait, mais ils sont reçus au Vatican, ils ont une ambassade au Vatican, ils sont au Canada, aux Philippines, un petit peu aux États-Unis, ils ne sont jamais venus en France. Knight of Columbus, en français, les chevaliers de Colomb. Là aussi, vous trouverez quelques livres, mais vous ne trouverez rien de sérieux sur un phénomène qui continue à structurer non seulement le Canada français agricole, mais qui est le seul endroit où on se bat encore pour recruter quelques prêtres, qui est le dernier rempart du catholicisme profond québécois. Il est sous cette forme-là, avec des quatrièmes degrés qui défilent avec leur décor, leur épée, à la fête de Saint-Jean-Baptiste. Donc ça, c'est un élément donc de décalage direct. L'autre, c'est la patente, c'est une autre société fraternelle, c'est l'ordre de Jacques Cartier, dont on ne peut pas dire que ça soit un tabou dans la mesure où les archives sont déposées, sont consultables. Il s'agit donc d'une fraternité qui a été créée dans les années 1920 par des franco-ontariens à Ottawa et qui... avec sans doute un personnage que vous connaissez tous qui s'appelle l'abbé Lionel Groulx, qui n'était pas très ami des chevaliers de Colomb, justement, et qui a longtemps souhaité qu'on crée une autre type d'organisation. Et donc elle s'est créée, cette société, cette fois-ci authentiquement secrète, de type un petit peu mafieux, mafieux sauf qu'il ne s'agissait pas d'enrichissement, que ce soit bien clair, mais il s'agissait simplement de faire en sorte que les franco-ontariens qui, depuis en particulier la crise qui a été documentée de l'Université d'Ottawa, où la bataille avec les Irlandais pour l'implantation de la langue française à Ottawa a été sanglante. Il y a deux livres, je ne me rappelle plus le titre de l'auteur, qui ont été faits là-dessus, mais aussi, on n'en parle pas beaucoup, ça a été épouvantable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui que l'Université d'Ottawa est bilingue. Mais la bataille a été terrible. Et c'est après cette bataille gagnée de haute lutte que les franco-ontariens ont décidé de s'organiser face toujours aux loges orangistes et aux lobbies anglophones de toutes obédiences, y compris les chevaliers de Colomb. Et donc, ils ont créé dans tout le Canada français, dans les derniers îlots de francité des États-Unis et bien sûr au Québec, cette organisation, ces commanderies, qui avaient pour but de trouver des places pour des francophones dans les appartements, de trouver des places pour les francophones dans les emplois, de faire en sorte de ne plus se faire manger la laine sur le dos. C'est un véritable lobbying extrêmement efficace. Qu'est-ce qui est arrivé autour de 1963-1965, au moment, si vous voulez, juste avant les États généraux du Canada français, au moment de grosses évolutions de votre société? Elle a éclaté, la patente. Ordre de Jacques Cartier, dites la patente. Alors la patente, je l'explique, il y a 250 explications à la métaphore, je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a un courant, qui était le courant, disons, montréalais, qui s'est détaché. Dans la mesure où le nationalisme, qui était déjà ambiant, est devenu dominant chez eux, et où eux, ils désiraient faire primer la logique territoriale, c'est-à-dire la logique du Québec, c'est-à-dire depuis qu'on ne dit plus le Canada français, d'ailleurs. C'est ce moment-là de rupture qui est un moment aussi de rupture terminologique. On dit plus on ne doit plus dire de fait Canada français à partir du moment où certains l'ont enterré, en choisissant une logique territoriale, dont je vous dis qu'elle abandonnait bien évidemment aux oubliettes les anglophones qui étaient à l'intérieur, en même temps que les francophones qui étaient à l'extérieur. Les Ontariens qui étaient minoritaires ont essayé de résister. Ils ont créé un ordre de Champlain qui a vécu quelques mois, qui était présent d'ailleurs aux assises du Canada français, mais qui n'a pas résisté. C'est-à-dire ce type de sociabilité qui n'était d'ailleurs pas du tout compatible avec une société démocratique, a donc explosé. Au moment même d'ailleurs où ils pensaient à admettre des femmes, parce qu'ils étaient purement masculins. Et donc, si vous voulez, cet autre éclatement est au cœur, à mon avis, d'une problématique qui oppose le territoire à la culture. Et ça, c'est un élément aussi, à mon avis, de décalage très fort. J'ai encore un petit moment. Alors, à partir de la puissance du clergé français au Canada, dont je vous rappelle qu'elle a touché donc quelque chose comme 15 000 hommes et femmes, alors des prêtres, des moines, des moniales cloîtrées, des hospitalières, toute la panoplie de la catholicité organisée, sans hiérarchie. Hein. Enfin, il y avait des prieurs, il y avait des responsables, si vous voulez, de communautés, mais il n'y avait pas, et ça c'est très important, c'est parce qu'il n'y a aucun archevêque qui a émigré qu'il n'y a pas eu de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conflit de pouvoir. Il y a eu intégration au clergé québécois massive, sans aucune difficulté, d'autant qu'on leur a donné des terrains, qu'on leur a construit des églises, qu'on leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Il y avait de la place, il y en a encore d'ailleurs, mais donc on leur a donné vraiment tout ce qu'ils voulaient. Et on leur a donné surtout des petits Québécois à 12 par famille à évangéliser, ce dont ils sont occupés dans une sorte de rédemption par rapport à cette France qui les avait chassés. Alors, ce que disait tout à l'heure, l'Irlande n'a-t-elle pas constitué le principal adversaire du Canada français ? C'est évidemment une proposition polémique. N'a-t-elle pas fait davantage que l'Angleterre ? C'est une proposition polémique, mais qui mériterait d'être traitée, et dont j'aimerais bien d'ailleurs voir quelqu'un un jour s'y attaquer, à partir notamment de l'histoire de l'Université d'Ottawa. Le deuxième adversaire du Canada français, peut-être même avant l'Angleterre, étant aussi la France. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait d'un côté une espèce de France républicaine et vertueuse et de l'autre côté une espèce de Canada moyenâgeux, clérical, et que bien entendu les deux se seraient éloignés. C'est que la France aurait très bien pu, à mon avis, s'occuper, ne serait-ce que pour le critiquer, du Canada français. Or, je crois que dans l'imaginaire français, la cause était perdue. La fameuse phrase de Voltaire que je redonne dans sa version longue dans mon livre sur, vous savez, ces arpents peuplé de barbares et de castors, a marqué profondément l'imaginaire français, et à l'exception des milieux cultivés qui ont connu un certain revival au moment de du soutien à l'Acadie, tout ce qui était progressiste à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur des forces politiques, à l'intérieur des forces culturelles, n'a jamais fait l'effort. Le premier qui a fait un véritable travail, c'est Siegfried, c'est 1930. C'est André Siegfried qui, le premier protestant d'ailleurs, va aux États-Unis, hein, vient un petit peu au Canada, mais quand même Siegfried, c'est Siegfried, et même quand il passe 15 jours quelque part, il en sort quelque chose qui tranche avec les tonneaux de stéréotypes qu'on nous ramenait, et dont la littérature canadienne française était porteuse. C'était vraiment, bon, les coupeurs de bois. Et c'est, je le cite, « Ma cabane au Canada », il faut prendre au sérieux ce genre de chanson, « Ma cabane au Canada ». et blottis au fond des bois, etc. Mais ça, ça marque profondément l'imaginaire français. Donc, ce Canada perdu au fond des bois, perdu dans le froid, qu'on a été obligé de lâcher aux Anglais au profit des Antilles, et les Antilles, on les a toujours. Et vous voyez ce qui se passe en Guadeloupe. Non, mais là, je plaisante un peu parce qu'il faut de temps en temps sourire, mais c'est terrible. L'oubli, le malentendu, si tant est qu'il faille, d'un point de vue un peu journalistique, trouver des coupables, je crois que la cause est parfaitement partagée. C'est-à-dire que l'éloignement est des deux côtés. Sauf que la France ne pensait pas au Canada français, mais le Canada français ne cessait de penser à une France qui n'existait plus, qui était quand même ma mère, mais ma mère qui avait trahi, le pays de ma langue, mais qui avait coupé la tête à mon roi, enfin, etc., etc. Et donc, deux siècles durant, ça a eu le temps de creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Alors, avant de conclure, vous savez que tout cela s'est résorbé au moment de la Révolution tranquille. Mais cette Révolution tranquille, tout de même, quand on fait un peu de sociologie de la religion, c'est une façon protestante de sortir du religieux. C'est très, très étonnant de voir des catholiques sortir du catholicisme comme les Canadiens français en sont sortis. Parce que quand on sort du catholicisme en France, en Espagne, au Portugal, au Mexique, n'importe où, c'est la révolution, des prêtres pendus, c'est après des prêtres qui se vengent, c'est la guerre d'Espagne, enfin c'est l'anticléricalisme, c'est le néocléricalisme qui résiste, c'est donc ce que vous connaissez en gros des histoires latines, le catholicisme romain, qui subit, comme les autres religions, une sorte de dépérissement. Les sociologues de la religion ont deux termes. On laïcise le catholicisme, on sécularise dans le protestantisme. C'est-à-dire que la sécularisation, c'est une sortie douce. Et vous, votre sortie tranquille, pour moi, c'est une sortie de pays protestant. Or, un pays catholique qui sort de la religion de façon protestante, c'est quelque part, il est anglo-saxonisé profondément anthropologiquement. Ou alors, je ne comprends pas. Et là aussi, il y a un décalage qui s'est créé. C'est qu'il y a eu une sorte d'anglo-saxonisation que nous, on subit par d'autres effets, par d'autres moyens. Mais en profondeur, du type de rapport au religieux, du type de rapport à un certain imaginaire et du rapport entre le religieux et le politique, le social, le religieux, le culturel, etc., qui fait que vous êtes, que les Canadiens sont sortis de la religion comme les Suédois ou les Danois ou les Norvégiens sont sortis du luthérianisme. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais bien aussi de temps en temps qu'on dise quelque chose. Cette fameuse révolution tranquille, c'est une sorte d'oxymore. Enfin, révolution tranquille, c'est déjà une jolie formule qui dit bien déjà qu'il y a quelque part une contradiction. Mais le fait de sortir comme des protestants quand on est catholique. Enfin, je vous soumets cette remarque. Vous n'êtes évidemment pas d'accord, pas obligé de me suivre. D'où cette question que je me pose. Si j'en venais à corriger, à amender, à approfondir telle ou telle question, dans quel cadre serait-ce possible? Parce que ce désintérêt qu'il y a pour la France, pour le Canada en général, dont en gros on sait que bon, il y a des anglophones, il y a des francophones, c'est au nord de l'Amérique, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt facile d'y immigrer, par ça, c'est à peu près tout ce qu'on en sait. Ça n'intéresse pas, évidemment, pas les éditeurs. Il n'y a pas d'espace universitaire pour ça. Et alors là, parlons des espaces universitaires. Je donne la liste à la fin de mon livre. Là, je ne vais pas me faire des amis, mais il y a au moins une centaine d'associations universitaires franco-canadiennes ou franco-québécoises. Il y a une sorte de concurrence, là, qui mériterait d'ailleurs d'être documentée, entre le Québec et le fédéral pour créer des associations. Il y en a au fin fond de la province française, hein, des études canadiennes ou des études québécoises, l'université de Caen, de Nice, de Grenoble, tout ce que vous voulez. Enfin, j'en ai publié la liste. Ils font des colloques sans arrêt. Ils parlent de tout ce qui se passe bien. Rien qui fâche. C'est étonnant. Rien qui fâche. on a vraiment l'impression que c'est le Quai d'Orsay, que c'est le ministère des Affaires étrangères qui gère de la diplomatie.
C'est ça.
Bon, donc voilà. Ah, si, c'est ça, c'est ça. Mais alors, pour le coup, c'est une superbe opération, magnifiquement réussie, parce que c'est décentralisé de manière étonnante. Ça a de l'argent, ça colloque, ça voyage, ça publie, et ça ne sort rien. Enfin, rien. Entendons là, je suis un peu dans la polémique, mais rien de ce qui nous intéresse ici, rien qui amène au débat. Tout qui amène à la célébration du fait que depuis 4 siècles, la France et le Québec, ça marche, c'est pas vrai, ça marche pas. Ça remarche, ça n'a pas marché pendant 2 siècles, on nous raconte le contraire, et on a donc mis, mais alors là c'est intéressant politiquement, des deux côtés, côté québécois comme côté fédéral, des machines en place pour qu'il en soit ainsi. Si vous êtes capable de m'expliquer, et ça j'en serais friand, les différences subtiles qu'il y a entre les études canadiennes et les études québécoises à ce niveau-là, ça mériterait aussi de regarder pourquoi et comment les grosses machines politiques se sont mises en place. Donc, en vous remerciant de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler de toutes ces choses, je voudrais conclure en vous disant que ce qui m'interpelle le plus et sur le chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, c'est que rien de ce que j'ai dit ne relève de la révélation. Rien de ce que j'ai dit n'est un scoop. Rien de ce que j'ai dit n'est même original. Je ne dis pas ça pour me déprécier, je dis simplement que le fait de les mettre ensemble, simplement, ce que j'ai essayé, c'est de les mettre ensemble. Mais que se passe-t-il donc pour qu'un pays où l'histoire est vivante, où la mémoire est vivante, où les cicatrices sont quand même maintenant, pour beaucoup, refermées, ou en tout cas, la situation est moins tendue qu'elle l'était il y a quelques dizaines d'années. Comment se fait-il que des travaux universitaires comme ceux sur... Je parle de phénomènes massifs, hein, la crise de l'Université d'Ottawa, les chevaliers de Colomb, les 15 000 religieux venus en France, tombent dans un silence poli. Tirent leurs 400 exemplaires à l'Université de Laval, ne sont jamais retirés, figurent dans quelques bibliothèques, ne font l'objet que d'une ou deux notes de lecture, n'entrent pas dans les bibliographies, n'entrent pas dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent pendant 5 ans sur des problèmes pour faire émerger, quand je dis 5 ans, c'est souvent 10 ans, pour faire émerger des problématiques capitales, faire mettre en lumière des phénomènes qui concernent des dizaines de milliers de personnes, qui concernent la régénérescence du clergé québécois, qui consiste à l'organisation religieuse des campagnes, l'opposition entre le référent territorial et le référent culturel. Tout ça existe. Je n'ai fait que le regrouper. Donc je m'attends à ce que j'ai fait, nonobstant l'amabilité qui est la vôtre, subisse le même sort. Et je dis pas ça, absolument pas ça pour me déprécier ni pour faire le malin. Je sais que de toute façon, ça intéressera un certain nombre de personnes. Mais j'ai l'impression qu'il s'est construit une sorte de consensus diplomatique, vraiment diplomatique, qui fait que il serait malséant de travailler le passé. Donc ce paradoxe de structure, et en France, du côté français aussi, il est malséant en France de parler de ça, comme il est malséant au Canada de parler de ça, et cette malséance dans deux structures qui sont, sauf erreur, des pays démocratiques, même pour ce qui est du vôtre, plus démocratique, je le dis, plus civilisé que le nôtre, plus féministe, plus tout ce que vous voulez, qu'aujourd'hui, on vive cette contradiction-là. Moi, je ne le supporte pas bien. Et donc, en vous remerciant une fois de plus, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez, vous, de cette contradiction et de ce fait, enfin, cette espèce d'édredon qui retombe sur toutes les volontés de mettre un peu de piment dans l'histoire de nos relations. Voilà.
Merci beaucoup. Alors... pour lancer la discussion, j'essaie de rassembler ce qui m'éclaire moi comme littéraire. Alors on ouvrira après à d'autres disciplines, mais je pense que en littérature, en histoire de la littérature, on n'a pas, on a travaillé. Et pas sous l'édredon diplomatique. Même si je reconnais tout à fait la description que vous faites de ces rencontres feutrées, où de temps en temps, comme littéraire, nous sommes invités à confirmer, par un exemple bien choisi, la collaboration, des choses comme ça. Il me semble que sur le plan de l'histoire ou de la sociologie de la littérature, les moments qui se passaient mal, les malentendus ont été ici au Québec étudiés. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais il me semble qu'on les a creusés. Et pour cause, on avait intérêt, parce que ce que vous nous aidez à comprendre, au fond, c'est pourquoi le Québec a du mal à nouer des relations avec une intelligentsia française autrement qu'avec sa frange et la plus réactionnaire et la plus dépassée, celle qui est en perte de crédibilité. Non seulement c'est la plus réactionnaire, mais il se trouve que pour la période moderne au sens large de notre littérature, c'est forcément celle qui est en perte de vitesse. Ça a des conséquences majeures sur la littérature et sur les liens littéraires, c'est-à-dire que la littérature québécoise, dans la mesure où elle l'intéresse que la frange réactionnaire va être proprement ignorée de tout ce qui va construire l'édition moderne, la critique moderne, etc. Donc nous, on avait quand même un peu intérêt à essayer de comprendre comment ça s'était mal passé, les littéraires. Donc je pense qu'on a plus travaillé, enfin si j'en crois ce que vous dites à propos des historiens et des sociologues, il me semble que les littéraires, on a plus travaillé ces malentendus-là, ces confrontations-là. Mais on les a travaillés ici, et c'est sûr que quand on apporte les résultats de ces travaux à nos collègues français, ben ça les intéresse pas beaucoup. Ça tombe ça tombe à côté. C'est évident. Alors, il y a des tas de choses dont on pourrait reparler, mais je résiste pas. Construction rhapsodique oblige à vous rajouter un petit accord à votre rhapsodie. C'est un moment de confrontation et de malentendu franco-québécois qui est assez drôle. C'est en littérature, c'est la querelle Charles Abderalden et Jules Fournier. Alors, je vous rappelle que Charles Abderalden, qui est mort en 1962, on ne sait pas très bien, la fin de sa vie, on n'est pas très informé. A écrit en 1904 et en 1907 les deux premiers ouvrages de critique littéraire entièrement consacrés à la littérature canadienne-française. Sauf erreur, ce sont les premiers. Alors, quand il les envoie...
C'est avant Barbeau.
Alors, il les envoie évidemment ici et il est en correspondance avec Jules Fournier, qui est un ami d'Asselin, qui est journaliste, qui est essayiste, qui est quelqu'un de très drôle. Par exemple, Fournier, pour vous donner une idée, lorsque Asselin signe la préface de l'anthologie des poètes de Fournier, voilà ce que Fournier écrit dans une anthologie. Les plus mauvais poètes du Canada français venant les premiers dans l'ordre chronologique, l'anthologie commence forcément par les plus mauvais vers. Et quand nous parlons de mauvais vers, la loyauté nous commande d'avertir qu'il s'agit ici de vers comme probablement jamais autre anthologiste ne fut ni ne sera dans la triste obligation d'en publier. Tout ça pour illustrer la veine polémiste de Fournier. Alors, lorsque Fournier reçoit les livres de Charles Abderalden, il lui dit « Mais ce n'est pas la peine de vous dépenser à ce point parce que de littérature canadienne-française, il n'y en a pas. » Et alors là, on a toute une polémique où Abderalden, fidèlement, loyalement et avec de moins en moins d'arguments, essaie de convaincre, lui, le français, un Canadien français, que si cette littérature vaut la peine d'être étudiée, et Fournier qui répond que c'est pas vrai, et qui le renvoie, lui, Abderalden, à une espèce de bienveillance qui frôle la condescendance. Alors, je cite une dernière fois, puis j'arrête. Il est certaines choses, monsieur, dont on ne sent parfaitement la valeur que lorsqu'on en est privé. C'est Fournier à Abderalden. Essayez. Oubliez votre parapluie en partant pour votre cours. Recevez un orage sur le dos et vous connaîtrez que votre parapluie est encore plus utile quand il pleut qu'il n'est encombrant quand il fait beau. Eh bien, nous autres, monsieur, au Canada, nous sommes continuellement à la pluie. Sous une averse de toutes sortes de productions étranges et monstrueuses, monuments de platitude, d'ignorance et d'enflure, ouvrages piquants à force de fadeur où le cocasse atteint au sublime, chef-d'œuvre du bourg inconscient et de sereine absurdité, livres à faire pleurer, journaux à donner le délire. Je voudrais vous voir sous ce déluge pour vous demander votre avis sur l'utilité des parapluies et la valeur de la critique. Alors, évidemment, Abder Alden, il n'en peut plus et il finit par lui répondre dans une lettre privée qu'il a décidé, de mars 2007, qu'il a décidé de consacrer désormais ses loisirs à l'étude du Patagon pour explorer, selon son bon conseil, les poésies de la Terre de Feu. Alors, c'est parce que c'est juste drôle qu'Abder Alden a fait l'effort, lui aussi, avant Siegfried, donc, de s'intéresser à cette littérature-là et qu'il a été fort mal reçu. Je voulais vous relancer sur les années 30 et sur les années 40, sur la relève et la nouvelle relève. C'est-à-dire, vous dites que ça ne s'est pas fait, finalement, ces relations avec des chrétiens progressistes. Est-ce que quand même, à ce moment-là, il me semble, Karim, tu compléteras, mais il me semble qu'au moment, qu'aujourd'hui, en tout cas, les historiens de la Révolution tranquille qui regardent d'où elle vient, insistent sur les relations qui se passent à ce moment-là entre le groupe de la relève un peu élargi et des gens personnalistes, etc.
Oui, enfin Fabre, que vous connaissez peut-être, qui est un historien qui est à la MSH, rencontré Gérard Fabre peu avant d'ailleurs la sortie de mon bouquin. Je le cite largement parce que... il est beaucoup mieux spécialiste que moi. Il s'agit en gros de... La question, c'est de savoir si on peut rétrospectivement remonter à partir du moment, disons, où la revue Esprit est arrivée au Canada et où le personnalisme est entré chez les Dominicains. Et où les Dominicains, qui aujourd'hui voudraient se faire passer pour les pères de la Révolution tranquille, ce qui me semble un peu fort de café, ils essayent... et je ne sais pas si vous connaissez... notre consoeur Dominique Marquis, que je connais pas personnellement, mais qui est donc historienne à l'UQAM et qui est en train de travailler sur la revue dominicaine. J'en ai pas parlé, mais la revue dominicaine, c'est un véritable magistère. C'est la revue dominante de l'Église au Canada français dans ces années-là. Et si j'en parle, c'est parce que c'est donc à ce moment, à un certain moment... Le personnalisme, l'esprit donc, qui est quelque part héritier du sillon de Sarnier et de ce long fil rouge de conversion à la République du catholicisme, la question est de savoir jusqu'où on peut le faire remonter. Que je sache, il y a toujours eu, évidemment, des chrétiens progressistes cachés ou moins cachés au Canada français, mais en ce qui concerne l'expression en termes de mouvement, en termes de revue, en termes de livre, il me semble assez difficile. Je sais bien que la tentation est de dire que la Révolution tranquille n'est pas arrivée par hasard, d'en chercher sans arrêt les causes et d'aller, et puis aussi psychologiquement de dire qu'on n'était pas dans la noirceur mais qu'il y avait de la lumière, etc., etc., ce que je comprends très bien comme démarche. Cela dit, moi je suis prêt à reconnaître qu'il y a eu, des mouvements, mais alors il faudrait m'expliquer comment ils ont été reçus, et parce que en général ça se passait mal pour ceux qui théologiquement ou politiquement prenaient des latitudes avec les archevêchés dominants. Ce qu'il faut bien savoir aussi à propos de ce paysage religieux, c'est que les choses sont assez différentes de la France, en ce que, en particulier, les jésuites me semblent avoir eu un rôle mineur par rapport à ce qu'ils ont eu en France. Bon, en France, ils se sont fait souvent expulser, mais quand ils étaient là, ils ont un magistère, ils ont aujourd'hui encore 4 revues en France. Ils ont Projet, Christus, Cahier pour croire et bien sûr Études. Ils sont plus que 500, ils sont vieillissants, mais ils tiennent encore bien la route, plus que les dominicains. Les dominicains étant considérés d'un point de vue intellectuel en France comme un degré ou 2 degrés en dessous des jésuites. J'ai l'impression qu'au Canada français et au Québec c'est un peu différent, et ce sont les dominicains qui ont les jésuites ayant eu plus un rôle scolaire cela dit je suis prêt moi là, ici à moduler toutes mes expressions, mais en tout cas le paysage religieux n'est pas le même. Les équilibres ne sont pas le même. Et puis aussi, ce qui est fondamentalement, c'est que le courant janséniste n'a pas traversé l'Atlantique. Le catholicisme français est profondément irrigué par le jansénisme. Je n'ai pas l'impression que le jansénisme ait été très puissant au Canada. Je peux me tromper là aussi. Enfin, tout ça pour expliquer que le catholicisme français, qui est d'ailleurs très différent du catholicisme allemand, qui est très différent du catholicisme espagnol, qui est très différent du catholicisme italien, est aussi très différent du catholicisme canadien français, qui est très différent du catholicisme irlandais. C'est-à-dire que il y a finalement presque autant de différences entre ces catholicismes-là qu'entre les différentes formes de protestantisme, il me semble.
Alors, question, remarque sur l'irlandisation, madame. Il faut parler dans le micro parce qu'on enregistre.
Merci. J'aurais de nombreuses remarques à faire internes à votre présentation pour vous demander certaines clarifications. Mais avant, j'aimerais vous dire que la première question qui me vient à l'esprit est très générale. C'est que je me suis demandé en vous écoutant et jusqu'à la fin où vous êtes un peu sorti de l'exposé, quel était votre point de départ et quel est votre point d'arrivée. Votre point d'arrivée, je crois que j'ai compris, vous voulez nous dire que la France connaît mal le Québec, que nous connaissons mal les influences qui ont eu cours ici autres que les influences les plus connues. Et donc, il y a un malentendu, on se connaît réciproquement très mal. Et je comprends que vous affirmez ça pour annoncer des pistes, suggérer des pistes de recherche. Là, je vous suis entièrement. Vous l'avez dit vous-même, il y a peut-être... Vous dites des choses que nous soupçonnons, sinon nous les savons. Bon, et vous donnez des exemples intéressants. Maintenant, ce qui me surprend un peu, c'est... le fait que vous n'ayez pas situé ce questionnement-là, ce point d'arrivée, dans son contexte historico-politique, surtout celui que nous connaissons depuis la Révolution tranquille. Alors, comment se fait-il, par exemple, pour prendre un exemple, que en ce qui concerne l'Association d'études canadiennes et l'Association québécoise, vous ne faites pas de différence? Ce n'est pas une critique, hein, c'est une interrogation. Je me demande si ça vous échappe, la guerre de tranchées qui se joue entre la France et le Canada et le Québec. Est-ce que ça vous échappe?
Non.
C'est un enjeu politique extrêmement fort. Donc, c'est à l'intérieur de ça, vous m'excuserez, je vais me situer également, parce que là d'où je vais vous répondre, ce n'est pas la littérature. Je suis Anne Le Garré, donc quelqu'un qui a publié un livre dont le titre est « Le Québec otage de ses alliés, la France et les États-Unis ». La revue Cité en France de Zarqa, que vous connaissez certainement, a fait un numéro spécial sur le Québec. J'ai le chapitre sur les relations France-Québec, pour ne donner que ces deux exemples principaux. Ensuite, j'ai été pendant 3 ans en France, directrice avec un Français d'un centre de coopération interuniversitaire franco-québécois. Donc, j'ai vu de près ce que le Canada faisait, ce que le Quai d'Orsay empêchait, ce que le Québec essayait de faire, etc. Donc, c'est à partir de là que je voudrais poser certaines questions internes à votre présentation. Vous avez dit, je vous cite, les francophones hors Québec, en France, personne ne sait qu'ils existent. Premier commentaire, le Quai d'Orsay le sait très bien. D'accord, il y a un énorme travail de la France qui se fait auprès des francophones hors Québec. Ensuite, chez les Français intellectuels moyens, je dirais, quand on emploie le mot « Canada », on parle du Québec. Ça, c'est une observation. Donc, le Canada, c'est le Québec.
Oui, c'est une observation, mais c'est aussi une erreur. Vous êtes d'accord?
Bien sûr. Non, mais c'est parce que personne ne sait. Bon. Je voudrais vous demander, je prends un autre point. Chevalier de Colomb, héritage d'une sociabilité britannique. C'est très intéressant. C'est la première fois que cet aspect est présenté. J'aimerais que vous l'expliquiez. Quel sens devrions-nous en tirer? Je pense quelque part que vous nous tirez vers l'américanité, concept que moi je critique et conteste, mais qui est beaucoup utilisé au Québec dans la définition identitaire actuelle. Est-ce que vous nous tirez vers l'américanité? Ça, pour moi, ça demande précision. Pas du point de vue d'un Français qui nous provoque un peu et qui s'amuse, mais du point de vue vraiment d'une démarche rigoureuse comme celle qui est la vôtre, présentée avec différents exemples, parce que c'est très conséquent. Études canadiennes, études québécoises, deux choses. C'est totalement différent. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des affaires politiques, que les moyens de l'ambassade du Canada sont énormes et que tout ce ronron dont vous avez parlé, excusez-moi, mais c'est l'Association canadienne d'études, l'Association d'études canadiennes. Il n'y a pas que du ronron, il y a des choses, je ne veux quand même pas être incorrect à l'endroit de certains travaux, etc. Mais c'est une affaire politique. Il y a beaucoup d'argent. La France fait ça tout le temps, partout dans le monde, sauf au Québec. La France ne fait rien de ça au Québec. La France, si on étudie, on regarde de près les subventions, l'argent qui est mis pour soutenir la recherche, la France est à Harvard, la France est à Toronto, la France est partout dans le Canada anglais. Et aux États-Unis, dans les grands centres de recherche, à MIT, etc., pas au Québec. Il n'y a aucun centre de recherche français au Québec. Mais les pays font ça. Donc, le Canada fait ça. C'est le Canada, le pays. Ce n'est pas le Québec. Le Québec, c'est une province pauvre. Bon. Alors, les études québécoises en France, c'est la grande misère. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a rien. Alors, quand vous, à mon avis, quand vous parlez de ces études ronron, etc., vous ne parlez pas de celles-là parce qu'elles n'existent pas. Maintenant, il y a une chaire d'études québécoises à la Sorbonne. C'est tout nouveau, donc c'est beaucoup trop tôt pour l'évaluer. Ils sont à peine en train de se fabriquer un site Internet. Et puis, bon, il y a des personnes qui sont là, qui donnent des conférences, etc. On ne peut pas juger. Bon, le fond de la question... Le fond de la question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'intérêt au Québec pour la France réelle? Commençons donc par nous. Au lieu de se demander pourquoi les Français nous connaissent mal, moi je pense que la question est énorme. Vous avez le droit de nous demander pourquoi on ne s'intéresse pas à la France, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on n'a pas créé de masse critique dans les universités québécoises qui s'intéressent à la France. Il y a des individus qui ont des alliés, des amis, des fréquentations, qui font de la recherche. On a tous fait nos études en France, enfin plusieurs de ma génération. Donc, on a gardé là des attaches, une fascination, une jouissance, un plaisir, tout ce qu'on veut, on va le chercher là-bas. Mais on n'a pas fait des petits, on n'a pas fait de relève. Il n'y a pas de... Bon, donc, c'est ça. Et demandez-vous si la France serait prête à subventionner au Québec la formation d'un centre de recherche. Ça prendra des années avant de les sensibiliser à ça. Donc, il y a ça. Est-ce que c'est parce que la France ne s'intéresse pas au Québec? Le Quai d'Orsay fait très attention dans le domaine des subventions à la recherche de ne pas subventionner le Québec. Je le sais parce que j'étais dans un poste franco-québécois, donc avec la commission binationale France-Québec, il y a les commissions Québec-Canada, Canada-France, il y a Québec-France. On voit bien la crispation, la peur, la frilosité. Donc, et à côté, on a des porte-paroles, des haut-parleurs politiques qui essaient de nous faire croire que tout va bien, que c'est le grand amour et qu'on se connaît bien. Voilà, ça c'est mon commentaire.
Bon, oui, je vous remercie de votre commentaire et de vos questions. Je vais essayer. Mais c'est très bien. Je vais essayer de vous répondre brièvement. D'abord, je vais le plus tôt possible. Je rentre lundi, j'aurai le temps essayer de trouver votre livre et le lire, bien évidemment. D'autre part, j'aimerais que vous fassiez un jour un article. Parce que ce point-là, je l'ai cité, mais je ne l'ai pas travaillé. C'est clair, je ne l'ai pas travaillé. Études franco-canadiennes, études franco-québécoises, vous parlez de guerre de tranchées, mais que n'écrivez-vous pas quelque chose là-dessus? C'est un sujet passionnant. et qui intéresserait les Français, pour le coup, qui intéresserait des Français. Moi, je ne connais pas d'études là-dessus. Je n'ai fait qu'en annexe un catalogue pour montrer, en gros, la contradiction qu'il y avait avec l'appareil mis en place et le peu de production critique qui m'intéressait. Cela dit, j'ai peut-être donné l'impression que je mélangeais deux entités qui en réalité sont en guerre. Je veux bien faire amende honorable, mais j'attends qu'il y ait un travail là-dessus. Ça serait un travail très très intéressant de savoir aussi, par exemple, dans ces études, les Anglo-Québécois, est-ce qu'ils sont inclus quelque part dans ces études-là ?
Si.
Oui ? Dans les études québécoises ?
C'est-à-dire qu'il y a quelques maigres concours, ils sont invités à y participer. Il y en a qui obtiennent des stages, si ça arrive, mais en nombre. Bon,
c'est-à-dire qu'on peut.
Par rapport à la proportion dans la population, ils sont sûrement aussi présents dans les études en France que les francophones.
Donc ça, c'est vraiment un problème qu'il faudrait. Et
inversement, permettez-moi, voilà. Les Français viennent ici.
Oui, oui, bien sûr.
Hein, on 40% des étudiants français.
Écoutez, mettez un étudiant là-dessus, mettez une thèse là-dessus. Non, mais franchement. Bon, je réponds très rapidement sur les chevaliers de Colomb. Je répondrai pas sur la France, sur le fait que Québec ne s'intéresse pas à la France. Ça serait une autre discussion. Et puis, mais ça s'explique historiquement pourquoi ils ne s'intéressent pas à la France. En quoi les chevaliers de Colomb sont-ils non pas une américanisation, mais une irlandisation ? Ce sont des Irlandais. Très récemment américanisés, partis d'Irlande parce qu'ils avaient faim, arrivés en Amérique du Nord, arrivés pour la plupart dans le Maine et dans le Massachusetts, sauf erreur, qui sont passés pour beaucoup au Québec ou qui, ou, en tout cas, étaient des deux côtés. Le centre de création, c'est New Haven, des chevaliers de Colomb, l'abbé McGivern. C'est à la fin du 19e siècle. Ça a été transposé, je crois, le premier conseil de chevaliers de Colomb doit dater au Québec de 1906 ou 1908, je parle de mémoire, à peu près 10 ans après. Je parle d'irlandisation dans la mesure où la franc-maçonnerie n'avait jamais pu rentrer au Canada français. Hein, les quelques loges au début du XXe ont été chassées comme dans une dictature. C'était assimilé aux Anglais. Les sociétés fraternelles de type Oddfellows, Foresters, etc., qui peuplaient le Canada anglais comme elles ont peuplé les États-Unis et qui venaient d'Angleterre, des formes populaires, hein, de mutuelles, mais très maçonnisées, très ritualisées, très etc., etc., n'avaient non plus jamais pénétré le Canada français. Le Canada français était vierge de toute forme de sociabilité, de club ou de loge adaptée, modifiée, quoi que ce soit. Les chevaliers de Colomb sont arrivés brutalement pour proposer tout de même des initiations, des grades, des décors, des légendes, des promesses, des quatrièmes degrés, des réunions régulières, des filles d'Isabelle pour les femmes, donc une structure équivalente pour les femmes. C'est un mode de sociabilisation qui n'existait pas au Canada français, qui est arrivé brutalement et violemment et massivement, puisque il y a eu jusqu'à, je sais pas, 300 ou 400 000 chevaliers de Colomb au Québec. Je veux dire, il n'y a pas une famille québécoise de petite ville où il n'y a pas quelqu'un qui était chevalier de Colomb. Je veux dire, c'était l'exception de ne pas l'être. Et là, je parle d'enquêtes que j'ai faites, énormément de gens qui me l'ont confirmé. Or, est-ce qu'ils ont été initiés ? Oui. Est-ce qu'ils avaient des décors ? Oui. Est-ce qu'ils avaient des légendes ? Oui, qui sont complètement... c'est le paradigme du rituel maçonnique qui est complètement... Et ça, donc, c'est quelque chose d'anglo-saxon, de généralement anglo-saxon, qui est arrivé en France par l'Angleterre au début du XVIIIe siècle, mais je ne vais pas vous parler de ça maintenant, mais qui, donc, est arrivé par les Irlandais. Les Irlandais ont été les vecteurs, non pas d'une américanisation, je crois pas en la matière, mais d'un modèle de sociabilité anglaise, britannique, on va dire, britannique, hein, dont ils étaient eux aussi porteurs en tant que britanniques. Mais en tant que britanniques, catholiques, c'est ce qui fait qu'ils ont adapté cette espèce de contre-maçonnerie, maçonnerie anti-maçonnique catholique. Cette espèce d'objet hybride, mais dont la puissance a été telle qu'elle s'est... Enfin, qu'elle s'est complètement répandue et qu'elle a donc été non seulement le mode de sociabilité principal du catholicisme québécois pendant des dizaines d'années. Et c'est en cela que je parle d'irlandisation, puisque c'était quelque chose qui ne correspondait absolument pas à la culture catholique du pays. Et c'est un phénomène donc social, c'est un phénomène religieux, c'est un phénomène culturel dont je m'étonne qu'il ne fasse pas l'objet de thèses qui analysent ça en profondeur, d'autant que ça a beau être sur le déclin, ça continue à exister fortement. Baladez-vous dans les cantons de l'Est, baladez-vous en Mauricie, baladez-vous dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous verrez, c'est pas le Rotary que vous voyez au début, hein, le truc, c'est les chevaliers de Colomb qui tiennent la boutique.
À Ville-la-Salle déjà. Pas besoin d'aller si loin, à Ville-la-Salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points sur la sortie protestante, du catholicisme? Vous avez dit quelque chose comme ça, qui allait un peu dans le même sens, qui serait intéressant à creuser. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, monsieur?
Je voudrais seulement une petite remarque sur les relations entre le Québec et la France, à comparer avec les relations entre des Québécois et les États-Unis. J'ai fait un doctorat d'État en France. Pour en attester, je n'ai qu'une feuille faite à la Gestetner sur laquelle c'est marqué « Obtenu un doctorat d'État, mention très bien, thèse retenue pour le concours ». Cette feuille s'efface progressivement parce que la Gestetner ne tient pas. J'avais un voisin de bureau et je n'ai plus jamais entendu parler des universités françaises. À la faculté de droit, j'avais un voisin de bureau qui lui a étudié une année à Harvard. Il a un beau diplôme dans son bureau. À chaque année, l'université Harvard lui envoie un petit dépliant. Et à chaque fois qu'il reçoit un dépliant, il envoie 100 $ à l'université Harvard. C'est pas surprenant que l'université Harvard soit riche, fonctionne bien. Et lui est très reconnaissant et très amoureux de son alma mater. Moi, c'est comme si j'étais né de... je ne sais trop qui, mais j'ai aucun rapport. Donc, je ne peux pas... Et à cette époque-là, il y avait au moins 6 000 Québécois qui faisaient des études, soit à la maîtrise, soit au doctorat en France. Ces gens-là ont aujourd'hui 60 ans. Qu'est-ce qu'ils ont formé? Des gens qui préconisent l'américanité, l'américanisation et tout ça, ça n'a eu aucun impact, tout cet investissement, sur un développement ou une promotion des relations avec la France ou l'intérêt pour les activités françaises.
Ben, quand même, du point de vue littéraire, on ne peut pas dire ça. Vous comprenez, nous, on n'est pas dans cette position-là, parce qu'il se forme ici des spécialistes de littérature française, reconnus en France. Je pense que quand ils sont sur le terrain de la littérature française, ils sont reconnus. Et une bonne partie de notre enseignement porte sur la littérature française. Donc, on ne peut pas se reconnaître dans...
Bon. Et puis, l'américanisation, vous savez, il suffit pour un Français de se promener au Canada anglais pour comprendre qu'il n'est pas aux États-Unis. Vous savez, c'est la grosse surprise des Français quand ils arrivent au Canada anglais, c'est de voir que ça n'a rien à voir avec les États-Unis, que ça a beaucoup plus à voir avec la Scandinavie. Du point de vue société. On est beaucoup plus proche de la Suède ou de la Norvège que des États-Unis. Enfin, je veux dire les Ontariens ou les Manitobains. Donc l'américanisation, je ne crois pas qu'elle soit en marche au Canada. Moi, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. Hein. Je parle du Canada en général. Hein. Et au Québec en particulier. Je ne crois pas qu'il y ait une américanisation. Et en littérature, certainement pas. Alors, y compris la littérature canadienne anglaise, qui n'a rien à voir avec la littérature américaine. Enfin, du peu que j'en connais. Et là, je ne suis vraiment pas spécialiste, mais pour moi, c'est vraiment deux mondes différents.
Michel.
Les deux grands auteurs étudiés en France, Charles Taylor et Kim Lika, sont étudiés dans des traductions en français des œuvres écrites au Canada anglais. Il n'y a aucun philosophe québécois qui est, disons, présent sur la scène française.
Fernand Dumont?
Non.
Très peu, très peu. Mais ça, c'est un autre débat, parce que là, on va... Très, très peu, bien sûr. Michel?
Oui, quand même. Bon, tu as dû répondre Québec, on ne s'intéresse pas à la France, hein, on n'étudie pas. Alors j'aimerais quand même vous entendre tous les deux argumenter là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me, évidemment qui m'interpelle, moi, venant de France et vivant au Québec depuis longtemps, intéressé profondément par les deux cultures, les deux côtés, et en effet, ça me trouble le fait qu'il y ait peu de d'écho ici, d'intérêt pour la France telle qu'elle est aujourd'hui, en effet, et réciproquement. Alors, j'aimerais quand même vous entendre un petit peu approfondir cette question-là. Anne, je suis sûr que tu as des choses très intéressantes à dire là-dessus.
Enfin, moi, je crois que... J'y dialoguerai bien volontiers sur cette question qui me paraît très importante. Donc, je crois que le problème vient du fait que les forces progressistes, qu'elles soient politiques ou culturelles ou religieuses, n'ont jamais eu d'antenne au Canada. Et ce qui est assez curieux, c'est que les Canadiens qui faisaient le voyage de Paris, qui ont toujours été nombreux, qui revenaient souvent éblouis, ne revenaient pas convertis à la modernité. Ou, en tout cas, la différence était sans doute trop grande entre ce qu'ils vivaient. Le décalage était déjà trop grand. Mais il n'y a jamais eu, enfin, politiquement, philosophiquement, de courant athée, par exemple. Il n'y a pas eu d'anticléricalisme, il n'y a pas eu de gauche progressiste européenne au Québec. Or, c'est avec ça que, y compris la culture a avancé. La culture française, elle a été marquée par la République, après elle a été marquée par le marxisme, elle a été marquée par la psychanalyse, que sais-je. Enfin bon, elle a été marquée par toute cette période qu'on a dit de French Theory, qui a été marquée, qui a été illustrée par les structuralistes et la fin du... Et le post-structuralisme, les grands Français, et aujourd'hui, tant étudiés en Amérique du Nord, hein, Deleuze, Foucault, Althusser, Lacan, Derrida, Barthes, enfin j'en passe, et les meilleurs, cette période-là n'avait pas d'antenne. Or, s'intéresser à la France, c'est s'intéresser... Il y a des gens qui, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient individuellement, hein, qui étaient très branchés et qui continuent à être très branchés sur ce qui se passe en France, mais qui n'ont... Il y a eu très rarement, je dis d'antenne, c'est-à-dire de relais. De relais parce que la société telle qu'elle était n'était pas en état de recevoir ces relais, qui étaient des relais transgressifs, qui étaient des relais critiques, qui étaient des relais... La France que les Québécois aiment à l'étranger, c'est une France critique, c'est une France qui bouge, c'est pas la France pétainiste. C'est pas la France... Parce que la France, c'est aussi ça. Hein. La France, c'est aussi la guerre d'Algérie. La France, c'est aussi... C'est le meilleur et le pire. C'est le meilleur que vous aimez, les Québécois, en France. Bon, mais ce meilleur-là, il n'a pas été exporté parce que la société, à mon avis, n'était pas capable... La société canadienne-française n'était pas capable d'accueillir, un théâtre... le théâtre de... On a bien vu, d'ailleurs, les difficultés qu'il y a eu... au moment, juste avant la libéralisation, les difficultés qu'il y a eu Sartre ou qu'il y a eu Camus à mettre les pieds à Montréal.
Bon, il y a tellement à dire, hein, c'est vrai. Juste sur la dernière réaction que j'ai eue, c'est sur le théâtre. Bon, on a eu les apprentis sorciers dans les années 60. C'était Genet, c'était Beckett, c'était Ionesco, etc. On a eu ça en...
60.
Ah oui, absolument.
Mais les années 60, tout bascule, on est bien d'accord. Hein.
Mais non, de quel Québec parlez-vous, là? Vous parliez des héritiers de Barthes, de Lacan, etc. C'est bien les années 60 et plus. Donc, je vous dis ce qu'on a eu. Je pense que c'est un peu rapide comme balayage. Évidemment, ça pose la question du rapport entre les élites intellectuelles, leur implantation dans les institutions et le rayonnement de ces institutions dans la société. Là, il y a un vrai problème. En ce qui concerne le rayonnement, l'espace public, la place occupée par...
Ça passe beaucoup par l'édition, les questions d'édition aussi, qui sont vraiment liées à ça, à mon avis.
Vous parlez édition, oui, de l'autre côté, pour les Québécois en France. Mais ici, le livre français, il est à profusion. Les auteurs français, on en mange. Les étudiants baignent, vous avez raison de le dire, dans la littérature française. bon, etc. Donc, c'est complexe. C'est le rapport des élites québécoises, de la pensée, de ce qui se fait dans le domaine de la pensée avec la société. Je dirais même pas réelle. On n'irait même pas si loin juste avec un espace public. C'est inexistant ou pratiquement inexistant. Bon, ça, c'est un problème propre à l'Amérique du Nord. Et je crois que l'idée de... moi, personnellement, la composante américanité de l'identité, c'est un autre dossier très long sur lequel il y a eu beaucoup de publications ces dernières années. Je ne voudrais pas le traiter rapidement. Moi, personnellement, je suis intervenue dans ce débat. Je crois que c'est simplificateur de parler de l'identité québécoise comme étant dominée par son américanité. Je trouve ça réducteur. Mais il reste qu'il y a une réalité là. C'est géographique et politique et c'est très, très fort. Donc, vous avez évoqué donc notre rapport aux institutions, à la modernité française. Ça m'a fait sourire parce que c'est vrai, objectivement. Mais ça m'a fait sourire quand même, comme si en France, c'était la modernité qu'on allait chercher. Bon, ça, c'est tout. Mais là, il faudrait peut-être définir. Mais quand vous avez fait référence à la Révolution française, à la modernité... C'est vrai que le prisme politique pour les Canadiens français du Québec, c'était plus les États-Unis et l'Angleterre, faut pas l'oublier. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je demandais le sens qu'il fallait tirer donc, de cette irlandisation, puisque on a cet héritage britannique et il est...
Qui est aussi porteur de modernité. Mais,
oui.
C'est
oui,
même
oui,
eux qui l'ont inventé, la modernité. Excusez-moi, les Lumières, elles sont écossaises d'abord. Hein.
Donc, on n'était pas obligé d'être tourné vers la France à cet égard-là. On a été fait d'autres choses. Donc, ça, c'est... Bon. Pour terminer, peut-être, dire un mot sur la question que Michel leur envoyait. Bon, très, très rapidement, je ne peux pas répondre à cette question vite comme ça. Moi, je ne vois pas une réponse. Je pense que le Québec est dans la résistance muette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modernité, de démocratie, de subversion, de contestation. Mais ici, on est pays du Nord. On est un pays du Nord. Alors, donc, effectivement, vous l'avez dit, c'est vrai, il y a cette résistance muette, très forte, ancrée profondément, mais elle n'est pas symbolisée, elle n'est pas encore... et le sera peut-être jamais, puisque là, on est emporté avec l'eau du bain, là. C'est tout l'Occident, là, qui fout le camp. Donc, de toute façon, on ne peut pas penser que les choses ici soient claires et nettes. Mais je ne crois pas qu'il y ait une réponse. C'est une grosse, très, très lourde question, très lourde, Michel, que tu poses. On peut dire on n'a pas eu de subvention, on peut dire on est responsable, on peut dire nos étudiants veulent aller dans les pays anglo-saxons. Tout ça, c'est vrai. Mm-hmm. On peut dire la France nous aide pas, nous a pas donné. Tout ça, c'est vrai. Moi, je suis dans un environnement en sciences politiques, sociologie politique, où vraiment, il n'y a rien à tirer de la France, là, franchement. Pour les étudiants, qu'est-ce qu'ils vont aller apprendre sur la France? Donc, ça ne les intéresse pas. À la limite, ils vont y aller avec un sac à dos et puis, bon, ils vont passer rapidement. Donc, c'est parce que les questions auxquelles nous sommes allés chercher des réponses en France dans les années 70 et suivantes ne sont plus les questions du jour. Ce ne sont plus ces questions-là, à mon avis, que les nouvelles générations se posent sur le monde, sur la vie, sur l'avenir, sur l'imaginaire de demain. Eux ne trouveront pas les réponses en France. Ce que nous, on est allés y chercher pour résister, pour subvertir le monde dans lequel on était, sont même plus des outils viables aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu réponse un peu désespérée.
Alors, y a-t-il Karim?
Oui, j'irai dans Karim Larose. En nuançant un peu le portrait, il me semble que, enfin, déjà, la question inaugurale dans la littérature québécoise, c'est comment trouver un public. Le lectorat était tourné entièrement, ou presque entièrement, vers le livre français. C'était la question de Crémazie en 1867, et ça a été la question de la littérature québécoise, de la possibilité de la littérature québécoise plus tard. Et je dirais la même chose des voyages de Québécois en France. Vous disiez
disiez que, qu'il ne revenait pas converti. Il me semble au contraire. On pense à André Laurendeau, par exemple, qui revient alors converti non seulement sur le plan intellectuel, journaliste de premier plan, essayiste, qui revient converti sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan politique. On peut penser à Gileno, qui va écouter Thorez et qui est proche du Parti communiste et qui revient aussi avec ce genre d'idées dans les années 40. On peut penser évidemment à la relève Maritain qui vient au Québec et qui fait des conférences et qui est acclamé avec un immense public. Et même Sartre, la conférence des années 40, elle est quand même diffusée à la radio de Radio-Canada. Oui. Et donc, il y a un certain nombre d'ouvertures comme ça, et ça passe aussi par les périodiques, non seulement la présence d'esprit au Québec, mais la relève, la nouvelle relève, Gants du ciel, Amérique française, jusqu'à Cité libre, et ça, c'est vraiment le début des années 50. Donc, il me semble qu'il y a quand même toute une veine à la fois intellectuelle et littéraire qui permet de documenter la présence de liens très forts et l'admiration aussi, le fait que les influences étaient en très grande partie des influences françaises, y compris à partir des années 10, avec le Nigog, par exemple, et des écrivains qui allaient passer littéralement des années et des années en France.
Oui, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, sauf qu'il y a quelque chose de plus important que le reste, c'est, je vais en dire deux mots, c'est le moment Maritain, parce que tout ce que vous définissez de journalistes qui aiment Thorez, etc., ce sont quand même des individualités derrière lesquelles ne se crée pas de mouvement. En revanche, enfin à mon avis, ou des choses éphémères, ou en tout cas tellement epsilonesques qu'elles n'ont pas laissé beaucoup de traces, tandis que Maritain, c'est autre chose. Et vous avez raison d'insister là-dessus. Et c'est une exception à ce que j'ai dit, vous avez raison de me reprendre. Parce que Maritain, c'est très spécial. C'est un converti, marié à une juive convertie, Raïssa, disciple de Léon Blois, et en même temps, vous le connaissez aussi bien que moi, et en même temps, on va dire, c'est pas le dernier des réactionnaires. Hein? Donc, même si ce n'est pas un personnaliste, hein, même si c'est... Bon, mais c'est sûr qu'il a eu une importance, ce travail, ce goût de l'exégèse, ce goût de la relecture, et ce lien à Blois, donc... si je commence à parler de Léon Blois, on en a pour la nuit, mais Léon Blois, par exemple, a aussi eu une importance au Québec. Mais bon, du côté quand même des éléments les moins progressistes. Mais le moment Maritain, c'est un moment qui est important, parce que c'est un des rares personnages qui a eu vraiment une influence qui était tolérée, parce que Maritain, ça n'était pas un révolutionnaire. Maritain, ce n'était pas quelqu'un qui était dangereux pour l'Église, mais c'est quelqu'un qui, quand même, modifiait les lignes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, effectivement, je crois que Fabre en parle un peu de ce qui, pour le coup, a préparé peut-être la crise des Dominicains. La crise des Dominicains en ce qu'elle est l'évolution interne au catholicisme, dont je disais par ailleurs qu'elle avait largement échappé pendant les décennies précédentes. Mais effectivement, c'est un moment très, très, très important, et c'est un moment, pour le coup, où ça fonctionne. Où ça fonctionne à l'intérieur de... Et finalement... Pour en conclure avec ça, c'est cette partie-là du catholicisme, cette constellation personnaliste, dominicain, maritain, respiritualisation, démocratie, mais ne posant pas la question politique, etc. Cette espèce de continent intermédiaire très culturel qui est celui dans lequel... Là, ça a fonctionné.
Absolument.
Là, ça a joué.
Il faudrait parler du père Marie-Alain Couturier aussi, oui, qui a eu une influence très, très concrète. Mais moi, je voudrais revenir à cette idée que les idées progressistes n'auraient pas eu de... Enfin, à l'inscription des idées progressistes d'origine européenne ou française. C'est vrai que c'est passé par des individus. Karim en a cité quelques-uns. Mais ça commence assez tôt. On peut en retrouver relativement tôt dans l'histoire des idées. Mais c'est vrai que ça ne donne pas lieu à des mouvements, mais peut-être que ça peut pas, et que ce n'est pas simplement une question de censure cléricale ou ultramontaine, hein, mais d'inscription, comme vous disiez, de la pensée ici, de comment ça fonctionne. L'intérêt pour la France, il me semble n'avoir jamais cessé, sauf s'être retourné en dépit et en déception du point de vue de la littérature, ce qui est parfaitement compréhensible, mais qui est encore une forme d'intérêt. Un littéraire québécois, le grand public cultivé au Québec lit probablement plus de littérature française que de littérature québécoise au Québec. S'il lit moitié-moitié, c'est très nouveau. Donc, je pense que ça n'a jamais cessé. Maintenant, ça ne s'inscrit pas forcément dans des mouvements. Mais ça, qu'est-ce qui s'inscrit dans des mouvements? Je veux dire, il me semble que là, il y a une question de structure sociale tout à fait différente de l'Europe et du Québec. Je pense qu'ici, les individus, ici, il y a plein de gens qui vont acheter Le Monde absolument tous les samedis et qui sont tout à fait au courant. Un essayiste, Karim, tu te souviendras lequel, disait que les gens étaient bilingues. C'est-à-dire que la pensée française les habitait en même temps que la pensée québécoise. Et c'était des relais. Et ça a servi de relais. Et oui, ça a servi à former des générations. Ça, je crois que si, quand même. Sauf que ça ne s'est pas inscrit dans des groupes ou dans des... Mais c'est... ce qui est en jeu, il me semble, c'est le fonctionnement du groupe en Amérique du Nord, effectivement. Enfin, il faudrait comparer aux États-Unis pour ça. Et vous comprenez ce que j'essaie de dire?
Mais je comprends d'autant bien que, vous savez, il suffit de regarder beaucoup plus près de chez nous... Hein. En Belgique ou en Suisse, ça ne prend pas du tout les mêmes formes qu'en France
non
plus. Hein.
Voilà. Mais peut-être que
donc, il n'y a pas de quoi s'étonner, et, excusez-moi, de la banalité de l'argument, qu'à 5000 km, il en soit largement autant de différence. La Suisse romande ou la Wallonie ne sont pas du tout culturellement et politiquement et religieusement françaises.
Dans l'intérêt, le désintérêt ou l'échange d'intérêts ou la difficulté à nouer l'intérêt aussi, est-ce que quand même il ne faut pas, ou est-ce que ça c'est une idiosyncrasie de littéraire, partir du fait que là il y a quand même un rapport centre-périphérie, en tout cas quand on s'occupe de langue, quand on s'occupe de production imaginaire, il y a nécessairement à négocier et renégocier un rapport de centre à non-centre. On n'est pas obligé de rester dans l'ordre des périphéries, mais il est difficile d'ignorer, quand on s'occupe de production artistique, que Paris s'édicte comme centre. Enfin, c'est largement étudié par des chercheurs français déjà. Et que, par conséquent, les autres sociétés francophones ont nécessairement à se positionner par rapport à ça. Je pense qu'on ne peut pas éviter non plus cette question-là dans la difficulté à nouer des relations qui soient réciproques et égalitaires, ce que je ne crois pas qu'il puisse arriver sur ce terrain-là, sur le terrain du partage de la langue, du partage de l'imaginaire. Bon.
Encore que là, je crois que les choses vont évoluer, que les choses vont mieux, que la littérature canadienne, française ou québécoise, je dis canadienne française parce que quand même la Sagouine, c'est pas québécois, et Antonine, c'est quand même une grande. Je crois qu'il y a de moins en moins de difficultés. Il y a pour vous dire les choses, le Québec, c'est de plus en plus banal, au meilleur sens du terme. Même l'accent ne fait plus tellement rigoler, parce qu'on l'a entendu beaucoup. Vous savez que les téléromans canadiens, québécois font un tabac à la télé française.
On n'en est pas
fiers. Non. Oui, mais non, mais ce qui la question qui mérite justement d'être posée, c'est que peut-être ce qui arrive aujourd'hui du Québec, c'est la culture populaire.
Non, tout à fait.
C'est peut-être une espèce de... Alors là, on est très loin de mes sujets, mais enfin, c'est peut-être la crise de la culture populaire française trop anglo-saxonisée qui va se chercher un substitut à travers la culture québécoise, des produits québécois, parce qu'on ne peut pas expliquer autrement qu'ils fonctionnent et que vous n'en soyez pas fiers. Parce qu'effectivement, c'est pas le summum de la création culturelle. Mais bon, ça marche. Le Québec, c'est avant tout la chanson. Je veux dire, c'est la chanson québécoise moderne qui a banalisé le Québec en France. ces voix puissantes des chanteuses québécoises, quelles qu'elles soient, qui de toute façon doublent le décibel des, ou triplent les, je ne parle pas de la femme du président de la République qui elle n'a aucun décibel, mais je parle de l'ensemble de la... Non, non, mais là je suis tout à fait sérieux. La culture de... Enfin, le Québec a rentré la francophonie dans la culture de masse en France. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et ça, bon, on est d'accord, on aime ou on n'aime pas, mais toute façon, je veux dire, la francophonie était en déshérence dans la culture de masse qui en France, était complètement anglo-saxonisée, qui l'est encore largement. On était, et c'est la production québécoise qui... enfin, c'est essentiellement Céline Dion et tout ce qui va derrière, ces grosses machines francophones, à part Johnny Hallyday, vous voyez, on n'en avait pas. Enfin, et ça, c'est on doit au Québec, quelque part, d'avoir... d'avoir imposé le français, la culture de masse. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est aussi très, très banal, mais les avions sont tout le temps pleins. C'est-à-dire que les relations physiques entre la France et le Québec sont massives. Massives.
Karim ?
Sur la culture populaire. Une des questions que je voulais poser, j'ai beaucoup aimé l'importance que vous avez accordée dans votre exposé aux représentations, effectivement, Macabane au Canada et la force de cette représentation en France, qui est vraiment stupéfiante du point de vue québécois. Vous n'avez pas l'impression que, justement, avec l'apparition ou la présence plus grande de la culture populaire québécoise en France, c'est bien sûr la chanson, c'est la télévision, c'est plus large que ça, c'est une présence tout à fait réelle. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a là une véritable possibilité de bousculer cette image de départ? Et je pense ici, par exemple, au fait que la culture américaine, dans les années 20, dans les années 30, est entrée largement au Québec, justement, par l'intermédiaire de la culture populaire, par les magazines, par le jazz. Et évidemment, l'élite de l'époque réagit très fortement, précisément, à ce danger. Alors, il le voit tout à fait, parce que la culture populaire permet de déplacer autrement.
Le risque, c'est qu'on remplace des stéréotypes par d'autres stéréotypes. Mon petit travail, moi, s'arrête en gros à la Révolution tranquille. Donc, je parle aussi des pharmacies de Charles Trenet. Je parle de quelques chansons qui ont profondément ancré un imaginaire, mais aussi toute une littérature. Et bon, dans un article que j'ai fait pour Histoire littéraire, où je parlais des collections de romans illustrés des années 20, de Flammarion, de Ferenczi, etc., avec le retour de la gravure. Il y a dedans Constantin Meyer, etc. Il y a une trentaine de ce qu'on pourrait appeler de romans canadiens. Et alors là, c'est absolument systématique. C'est La cabane dans la forêt. C'est Le coureur de bois. C'est le syndrome Maria Chapdelaine. Hein, enfin, donc... que je ne vous apprends pas, dont je pense effectivement qu'il est en voie de déshérence, parce que ça correspond à des choses que de toute façon les jeunes ne lisent plus, à des chansons que les gens n'écoutent plus. C'est devenu de l'histoire. Aujourd'hui, le stéréotype du Québec, enfin, c'est le showbiz. L'image du Québec qu'on a, c'est le showbiz. C'est Garou, c'est Céline Dion, c'est... même les Cowboys fringants, tout ce que vous voulez. Non, c'est une grande place. Je veux dire, les Québécois, je ne crois pas qu'ils se plaignent de la scène française. Hein. Ça marche très fort.
Michel.
Je crois qu'une des évolutions récentes assez paradoxale et assez frappante, c'est en effet que si on parle avec les jeunes Français aujourd'hui, je parle avec mes neveux, mes nièces, etc., et beaucoup d'autres, pour eux, le Québec aujourd'hui, c'est la modernité.
Oui.
C'est la modernité. Oui. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, là, parce qu'il y a en effet un renversement radical. Tout ce qui était le côté que tu viens d'évoquer, le stéréotype, la cabane au Canada, ça a absolument disparu. Aujourd'hui, les jeunes Français, s'ils s'intéressent au Québec, c'est pour venir faire des études à HEC, par exemple. Hein, ils se battent pour venir faire des études à HEC. Parce que pour eux, ça représente quelque chose qui est la modernité de toutes les façons. Enfin, les études de commerce, les études de finance, des universités qui fonctionnent, par exemple. Et ça, ça les séduit énormément. Et je pense que c'est tout à fait lié aussi à cette séduction qu'exerce toute une culture populaire québécoise très bien connue maintenant en France, qui est celle de la musique. On parlait des chansons, mais c'est plus des chansons, enfin c'est autre chose, je sais pas, enfin moi je connais peu ce genre de choses, mais je sais que ça a un impact formidable. Des groupes québécois qui font une musique que personnellement je connais pas, lorsqu'ils débarquent à Paris ou ils vont dans les provinces, parce que ça touche beaucoup les provinces, ils sont extrêmement populaires, les salles sont remplies. Et ça, ça représente pour toute une jeunesse française, ça représente la modernité.
Tout à fait. Hein?
Donc là, je crois qu'il est en train de se passer quelque chose de tout à fait différent. Alors pour nous, littéraires, c'est peut-être un petit peu regrettable, parce que ça n'est tous ces jeunes qui s'intéressent à cette modernité québécoise, ils ne disent pas la littérature québécoise. C'est pas par la littérature que ça leur arrive. Exactement. Mais ça leur arrive autrement. Et donc là, on est en train probablement de sortir d'un paradigme qui était le paradigme traditionnel des échanges et des influences qui fonctionnaient à base de grandes cultures, hein, ou de hautes cultures. Non, là, je crois que c'est en train de se terminer. Alors, je ne sais pas s'il faut le regretter, s'en réjouir, quoi que ce soit, mais ça me semble massif.
Oui, pour reprendre la question de l'américanité, pour beaucoup de Français aussi, le Québec, c'est l'Amérique en langue française. C'est la possibilité d'être en Amérique et de parler français. Ça joue énormément sur le tourisme en particulier. Ah oui, oui.
Alors, si, à moins qu'il y ait une autre question ou une autre remarque... Je pense qu'on peut remercier notre invité de s'être soumis généreusement.
C'est moi qui vous remercie parce que c'est passionnant d'avoir
à la discussion.
À confronter ces petites recherches.
Et merci au public, ce qui prouve que la question touche encore quand même, cette question France-Québec. Hein, elle vient encore chercher des choses. Alors merci beaucoup à tous et bonne soirée.